bonjour à tous, auditeurs, fidèles auditeurs, devrais-je dire, de Radio Couleur Chartreuse, et bienvenue sur ce nouvel opus émission mensuelle des Rivières et des Hommes, l'émission de l'APPMA des pêcheurs du Haut-Guillet. Alors, il paraît que je ne dois plus dire joyeux dri, mais guéluron, c'est ça ?
Si tu veux. Oui,
avec nos fidèles guélurons, qui sont souvent les mêmes. Gilles Rondeau, garde-pêche à l'APPMA. Bonjour Gilles.
Bonjour Sophie, bonjour à tous.
Et Marcel Guitta, notre pétillant président de l'APPMA. Bonjour Marcel.
Bonjour Sophie, bonjour Gilles, bonjour Lucas et bonjour à nos auditeurs.
Et comme vous l'aurez compris, en régie, à la technique, c'est Lucas, effectivement. Alors, on a toujours beaucoup de choses à débattre au sein de cette APPMA, parce qu'on ne laisse pas la rivière tranquille, malgré toutes les actions mises en place. On va commencer par un suivi sur la biosurveillance de la qualité avec la pose de Gamard, Marcel.
Oui. Nous avons...
Alors, est-ce qu'on peut rappeler ce que sont des gamards pour...
Alors, les gamards, ce sont simplement des petites crevettes d'eau douce qu'on trouve dans le Guillet, qu'on trouve dans tous les affluents du Guillet, soit les rétangs, soit les yeux noirs. Donc, ces gamards, c'est ce qu'on appelle des bio-indicateurs. Ils sont comme des éponges et ils captent, comme tout être vivant qui se trouve en rivière, tous les polluants. Alors, l'avantage, c'est que, bon, effectivement, on a des polluants dits organiques qu'on retrouve par rapport à l'ammonium, le nitrate, nitrite, phosphate, mais on a ce qu'on appelle des micropolluants. Ces micropolluants, ça peut être des pesticides, ça peut être des polluants qui sont des produits médicaments, des médicaments que l'on prend et que l'on rejette au travers de nos urines, de nos excréments, etc. Ouais. Et ça, on ne sait pas l'analyser. Donc en mettant ces gamards, donc c'est des gamards qui sont élevés dans des bassins où l'eau est saine, et après ces gamards, on les met en cage. Et ces gamards, on les dispose à différents endroits, donc il y a trois endroits qui sont prévus dans le Guillet dont je vais vous parler. On les laisse environ 8 jours, et pendant ces 8 jours, ces gamards vont absorber tous les polluants. En plus, ces gamards ont un cycle de reproduction très court, de quelques jours. Donc ça va nous indiquer ce qui perturbe, parce qu'en fait, on s'aperçoit que sur nos rivières, on a des problèmes au niveau de la reproduction, et on se pose plein de questions, on veut mettre tout en no-kill, on veut faire ci, on veut faire ça, mais en fait, on ne connaît pas vraiment les causes de ces problèmes. Bon, on sait qu'on a le changement climatique qui fait qu'on a de l'eau quand même qui est beaucoup plus chaude qu'avant. Et le fait de mettre de ces gamards... Alors ces gamards, ils vont rester à peu près 8 jours. Ils vont être prélevés et analysés. Et ça va nous indiquer d'abord ce qu'ils ont... ils vont faire comme une éponge, donc ce qu'ils ont absorbé comme polluant. Donc on va déterminer ces différents polluants. Et surtout, je dirais... l'action négative de ces polluants sur un organisme vivant. Parce que, voilà, c'est ça, le progrès. On va pouvoir voir ce qui perturbe vraiment nos rivières.
Juste une petite précision. Vous parliez de la reproduction des poissons. On sait que la PPMA a à cœur de cultiver les espèces autochtones qui se reproduisent toutes seules, sans réintroduction de poissons. Donc,
gestion patrimoniale.
Voilà. Donc ça touche aussi à cet objectif-là, au maintien
objectif-là. Bien entendu, ça concerne les poissons, mais ça concerne tous les organismes vivants dans l'eau,
oui,
que ce soit
la faune, la flore,
exactement, la faune aquatique,
ce dont les poissons se nourrissent, bien sûr,
exactement, et tout ce qui tourne, tout ce qui tourne autour de la rivière.
Parce que très naturellement, les poissons, s'ils trouvent plus assez à manger, ils vont ailleurs.
On sait qu'on a constaté depuis 30 ou 40 ans ce qu'on appelle déjà avec les insectes terrestres l'effet pare-brise. Moi, je me souviens quand j'étais enfant, on roulait la nuit avec mes parents. Au bout de 2 ou 3 heures, on était obligé de s'arrêter. Parce qu'en fait, le pare-brise était tellement couvert d'insectes qu'il fallait le nettoyer. On ne voyait plus rien. Maintenant, on peut prendre la voiture, on peut rouler des centaines de kilomètres, on peut rouler toute la nuit, et on va s'apercevoir qu'il y a très peu d'insectes. Donc cette biomasse qui composait tous ces insectes... Alors, bien sûr, je parle des insectes terrestres, mais là, pour les insectes aquatiques, c'est pareil. Parce que Gilles, qui est un très bon pêcheur à la mouche, pourra vous indiquer qu'à la mouche sèche, on ne prend pratiquement plus de poissons. On est obligé de pêcher à la nymphe. Donc, nymphe, ça représente un insecte aquatique. Mort.
C'est celui qui sort, il n'est pas encore mort. Il faut que je révise mes classiques.
Et on ne prend plus que des poissons de cette façon. Alors, on arrive à prendre encore des poissons à la mouche sèche, mais on va prendre un poisson sur 50 à la mouche
disons
sèche.
Que...
Mais je pense que Gilles en parlera bien mieux que moi. Gilles, je te donne la parole.
Disons qu'actuellement, 90% des poissons se nourrissent au fond de l'eau et mangent des larves.
Il n'y a plus de gobage, alors
Il y a de moins en moins de gobage, on le constate. On voit des gobages surtout le soir, tard, à la tombée de la nuit, alors qu'on voit quand même quelques éclosions la journée. Le poisson a changé de façon de s'alimenter. Alors, d'où ça vient? Mais on voit quand même quelques insectes. On ne peut pas dire non plus qu'il n'y en a plus, mais il y a une disparition de certaines espèces d'insectes. Et ce n'est pas un bon signe de la qualité de l'eau. C'est pour ça que ça nous inquiète vraiment.
Voilà. D'où cette biosurveillance, ouais. Marcel.
Par ces gamins, voilà.
D'accord.
Donc, en fait, il est prévu trois endroits. On avait prévu au départ quatre endroits. Un, le premier, donc, au pont du Curé. Et puis, il y a des travaux dont on va parler tout à l'heure concernant l'arasement partiel du seuil du Moulin Neuf. Donc, le seuil du Moulin Neuf, c'était ce qu'on appelait le seuil de l'ancienne papeterie. Donc, et puis, ces travaux vont durer tout le mois de juillet. Et la dépose est prévue pour le 8 juillet. Alors après, je me suis dit non, parce que ça va perturber tout ce qui va se trouver à l'aval. Donc on a une dépose sur le Guévif, au niveau de la réserve, donc juste avant sa confluence avec le Guémor. On a une dépose qui est prévue à l'aval de Multibase.
Je peux t'interrompre une seconde.
Oui, mais bien sûr.
Il ne faudrait pas qu'on se fasse enlever les cages par des gens qui sont pas au courant de ce genre de choses. Donc,
c'est bien de
donner des précisions.
On peut donner certaines précisions.
Le point GPS, non ?
Non, on ne va pas donner le point GPS, mais en fait, je pense qu'il faut informer, parce que les gens qui risquent de tomber, parce qu'en fait, ces cages seront immergées, elles seront identifiées. Et bien, si pêcheurs ou promeneurs, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se promènent dans les cages, vous apercevez ces cages, s'il vous plaît,
ne les touchez pas,
laissez-les bien, parce que sinon, ça va fausser toutes nos analyses. Voilà. Donc, c'est
surtout
important
que ça,
quand même.
Ça n'a pas grand intérêt.
Donc. Voilà, ça a beaucoup d'intérêt sur le plan scientifique, sur le plan, je dirais... De la connaissance de notre rivière, mais surtout laissez bien ces cages en place.
Surtout les pêcheurs, parce que ça coûte quand même quelque argent auprès des laboratoires comme Biomae, qui sont des laboratoires spécifiques pour analyser ce genre de choses, et que si les pêcheurs eux-mêmes arrachent ces cages, c'est leur argent qui sera fichu en l'air, en quelque sorte.
Chaque analyse coûte 1 200 €.
Ah oui, c'est pas une paille.
Non. Donc là, tu vois, ça fait 3 600 €.
Oui.
Donc, mais il faut qu'on le fasse. On a un petit peu d'argent à la PPMA. Je pense que ça nous permettra de connaître notre milieu, de connaître davantage notre milieu, d'approfondir ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas. Voilà, ça c'est très important pour continuer, pour toujours...
Disons qu'on ne peut pas prendre de disposition, comme disait Marcel tout à l'heure, catégorique, sans savoir exactement ce qui se passe dans la rivière. Est-ce qu'on a moins de poissons ? De quelle qualité ? Est-ce qu'on a toutes les tranches d'âge ? Est-ce qu'il se reproduit correctement ? Est-ce qu'il bouffe des pollutions, non seulement organiques, mais chimiques ? Est-ce qu'il se féminise ? Comme on disait l'autre fois, ça paraît bizarre de dire que le poisson se féminise, mais s'il y a des pilules dans l'eau, des pilules
contraceptives... Des restes de pilules, oui.
Ça peut agir sur sa morphologie. Donc, c'est très, très intéressant de savoir. Et une fois qu'on saura, de prendre des dispositions qui concernent cette rivière. C'est dans le bien-être, c'est pour le bien-être des pêcheurs qu'on fait ça, c'est pas pour s'amuser. Et c'est pour qu'ils aient une densité de poissons à pêcher, comme dans certaines rivières, on voit que c'est revenu, le Chéran, l'Albarine, tout ça, où ce sont des rivières très très bien gérées, entre guillemets, j'aime pas ce mot. Moi, une rivière bien gérée, c'est une rivière qui coule toute seule et où l'homme n'intervient pas. Mais on voit bien qu'ils obtiennent des résultats, donc on aimerait bien obtenir les mêmes résultats qu'eux avant de prendre des mesures restrictives, draconiennes, on va dire.
Moi, je vais aller un petit peu plus large par rapport à ce que vient de dire Gilles. C'est qu'en fait, ça profitera à tout le monde. Parce que la qualité de la biodiversité, c'est pour tout le monde, c'est pas que pour les pêcheurs. On ne travaille pas que pour nous, pêcheurs, on travaille pour tout.
Pour l'ensemble des utilisateurs.
Exactement.
L'eau se boit, oui.
Exactement.
L'eau se boit et l'eau, parce que l'eau on l'utilise aussi pour rivière, on l'utilise pour, pour des tas de choses, effectivement.
Voilà. Alors, il y a eu des analyses suite à la pollution qu'on a eue avec les établissements Paturle. Les établissements Paturle ont fait des analyses. Donc, on a une liste de tous les polluants. Elle est énorme. Mais en fait, quand on fait cette liste, soit du cyanure, soit du mercure, on a tout ça. Mais en fait, on est toujours inférieur à la quantité. Ce qu'on ne connaît pas, c'est l'effet cocktail.
Le mélange de plusieurs
et pour connaître,
matières.
Exactement. On utilise à peu près plus de 100 000 produits chimiques. Et en procédant de cette façon-là, on verra l'effet cocktail sur nos gamards. Parce qu'en fait, on est toujours inférieur, sauf pour certains hydrocarbures. On est toujours dans les normes. Mais c'est l'effet cocktail. Il y a une étude suisse qui a été faite récemment sur les pesticides. On s'aperçoit que les pesticides, on les retrouve jusqu'au pôle, alors qu'il n'y a pas de pollution. En fait, on retrouve des pesticides à des endroits où il n'y a aucune pollution. Donc en fait,
ça se diffuse. Au-delà des zones où
la Terre, c'était comme un être vivant. Hein, de toute façon, on ne peut pas...
C'est comme s'il y avait des veines dans la Terre, en fait. Hein, d'une façon ou d'une autre, ça circule.
Cette façon de procéder nous permettra de connaître vraiment... alors, c'est un premier pas, parce qu'après, si on veut approfondir, on sera obligé de refaire ces analyses plus en détail. Mais ça va nous permettre d'avancer.
Bien. Alors, est-ce que sur le terme biosurveillance, est-ce qu'on peut avoir un éclairage qui paraît presque évident au regard des... C'est les gamards qui...
Ah ben, c'est les gamards qui vont nous indiquer, le
niveau de la qualité de l'eau.
C'est sur leur vie même. Si les gamards, au bout de 8 jours, ils sont tous morts, ouf. Alors là, on va se poser des questions. Mais en les retirant de l'eau, on va les analyser. On va les disséquer. Et là, on saura pourquoi ils sont morts. Voilà. Alors, est-ce que c'est la faute des pesticides? Est-ce que c'est la faute d'autres micropolluants? Il y en a tellement des produits chimiques. Voilà. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle les nouveaux outils de biosurveillance. C'est le laboratoire BioMAE. Et pour moi, c'est des réponses possibles à ces nouvelles problématiques de ces nouveaux... ce qu'on appelle tous ces produits de synthèse. Parce qu'on a des pesticides qui sont naturels, qu'on trouve sur certaines plantes. Mais en fait, c'est tout ce qui est, de synthèse. Et c'est là où il y a un gros problème. Voilà.
Alors, les résultats, vous les aurez pour la rentrée
ou... Alors, oui, je pense. Alors, donc, BioMAE nous ont promis, donc, on retire les cages le 15 juillet. Et assez rapidement, je pense qu'au bout d'un mois, deux mois, on aura les résultats, peut-être avant. Et quelqu'un donc de BioMAE viendra nous faire, une présentation de ces résultats. Et puis là, on pourra échanger et on pourra avoir des... Tout le monde pourra commenter ces résultats et puis poser des questions.
Bah, ça pourrait faire l'objet d'une émission intéressante.
Après, bien sûr, on peut très bien faire une émission radio avec la personne représentante de BioMAE. Voilà.
Si toutefois, elle est disponible.
Oui. Alors, pourquoi on a choisi BioMAE? Parce qu'en fait, c'est Yann Abdallah. Qui est un scientifique qui s'intéresse à la pêche.
Yann Abdallah fait partie de la PPMA?
Non, mais c'est bio. Yann Abdallah, c'est CIMABIO.
D'accord.
Donc il accompagne, par exemple, là, il accompagne les travaux. Les travaux qui sont faits actuellement par le SIAGA, il y a CIMABIO, par exemple, l'arasement des seuils de la laiterie, des entonnins, l'introduction de puces pour repérer les poissons, tout ça, c'est Yann Abdallah et derrière.
D'accord.
Donc ça, c'est vrai qu'on a un très bon rapport avec lui, c'est quelqu'un qui...
Ça devient technique, là.
Qui est passionné comme nous. On a des échanges et voilà, et on avance aussi grâce à lui. On avance grâce à tout le monde, on avance grâce à nos gardes qui surveillent notre rivière, on avance grâce à nos bénévoles qui sont là pour surveiller les chantiers.
Aider aux pêches électriques et à bien d'autres travaux. Très bien.
Bon.
On se reprend un peu le souffle parce que ça fait un quart d'heure sans discontinuer.
Désolé.
Qu'on écoute Marcel. On va écouter Raccoon Oyan.
Con am tai nen.
Bonjour à tous les auditeurs qui nous rejoignent actuellement sur les ondes de Radio Couleur Chartreuse dans l'émission mensuelle des Rivières et des Hommes, l'émission de l'APPMA des pêcheurs du Hoguier, en compagnie de nos guélurons, faut-il dire aujourd'hui, à savoir Gilles Rondeau et Marcel Guitta. Et on va essayer de simplifier, de décoder un petit peu ce que Marcel vient de nous expliquer en termes un brin technique avec Gilles.
Oui, c'est vrai, mais Guéluron, c'est la même chose que Joyeux de Riz.
Faudra me dire ce qui va bien.
Non, je pense qu'on a été un peu trop scientifique sur ce coup-là, parce que la plupart des pêcheurs ne suivent pas le sujet autant que Marcel, qui est plongé dedans plus que dans la rivière, parce qu'il a dû pêcher une fois depuis l'ouverture.
Immergé dedans.
Ou deux, zéro. Ou zéro, tu
même
vois.
Zéro. Donc, c'est un président investi. Hein.
Oui. Il est plongé là-dedans jusqu'au cou. Et c'est un peu, disons, c'est un peu technique pour quelqu'un qui ne suit pas le sujet. Moi, ça m'intéresse, donc je regarde tout ce qu'il fait quand même, je surveille de près. Mais pour un pêcheur lambda, je pense que c'est un peu compliqué. En clair, pour résumer, disons que votre argent, parce que sur une carte de pêche de 100 euros, la PPMA en récupère 16 environ. Le reste partant soit à la Fédé de l'Isère pour une part et soit à la Fédé nationale. Donc avec ces 16 euros-là et notre trésorerie existante, on essaye de trouver des moyens pour que la rivière devienne un peu meilleure pour vous tous. Donc,
Qu'est-ce qu'on met derrière meilleur ?
Beaucoup de choses. Hein.
Plus de poissons ?
Oui, plus de poissons, une qualité de l'eau, un environnement, enfin tout un tas de choses. Hein. C'est global. Donc là, Marcel est rentré vraiment dans le côté technique avec des sociétés avec qui on travaille, donc le SIAGA, Simabio, Biomae, etc., etc. Ils maîtrisent le sujet, il n'y a pas de souci pour ça. Maintenant, faites-nous confiance, les gars, et on verra si ça ne marche pas. Ben, vous changerez de président et de membre de la PPMA.
En tout cas, ils sont très investis, ça je confirme. Alors, second sujet d'importance, un scoop, il y a une réunion avec l'entreprise Botta qui va avoir lieu bientôt, qui a déjà eu lieu, j'ai pas tout suivi.
Oui, oui. Bah,
concernant l'ascenseur à poissons et le barrage.
Donc, vous êtes tout le monde, enfin tout le monde sait, les membres du bureau, toi, Sophie, et puis bah, toutes les semaines, j'ai envoyé donc un petit dossier PowerPoint à l'OFB qui transmettait ce dossier à la direction départemental technique du territoire, et à force bien sûr de montrer tous les dysfonctionnements, donc des points essentiels, par exemple ce dont je me suis aperçu, c'est que l'échelle à poisson était, le bas de l'échelle à poisson que devait prendre les truites était toujours 60 à 80 cm.
Alors Marcel, est-ce qu'on peut resituer justement pour ceux qui nous écoutent?
Ouais, exactement. Alors voilà, le barrage Botta, donc il se situe à l'amont donc de Saint-Laurent-du-Pont. Il est équipé donc de ce qu'on appelle d'une passe à poissons.
Alors à l'amont, est-ce que ça se trouve là où il y a les locaux Botta, là avec les vitres toutes
juste
cassées
Juste au-dessus, là où il y a le barrage. Hein, le barrage, quand vous sur l'ancienne route, il se trouve. Hein, il y a eu le tunnel qui a été creusé et sur l'ancienne route
qu'on n'a pas le droit de prendre.
Voilà, exactement. là, il y a le barrage Botta. Alors ce barrage Botta, bien sûr, il sert à produire de la microélectricité. On n'est pas totalement contre la microélectricité. Simplement, il faut que la continuité écologique soit préservée. Continuité écologique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le poisson, au moment qu'il a besoin de frayer, puisse remonter. Et le poisson, il cherche aussi à remonter en période de canicule. Voilà, pour trouver de l'eau oxygénée et plus fraîche. Et là, avec le barrage Botta, le dispositif de franchissement ne fonctionne pas. Alors, en envoyant, toutes les semaines, j'allais sur plage, j'essayais de comprendre pourquoi ce barrage ne fonctionnait pas. Et je me suis aperçu, donc ce barrage, le dispositif de franchissement est composé à la fois d'une échelle à poisson, d'un ascenseur et d'un canal qui permettait aux truites de rejoindre le gué. Alors d'abord, on s'est aperçu que le canal qui permettait aux truites, une fois qu'elles étaient sorties de l'ascenseur, de rejoindre le gué, était toujours bouché. Voilà, donc... Après, il y a eu des travaux qui ont été faits, qui ont débouché, et là, il y a une maintenance qui est faite. Après, on s'est aperçu que l'ascenseur à poissons, il y avait des travaux à faire dessus, ils ont fait des travaux. Et le dernier gros problème, c'est que le bas de l'échelle à poissons était 60 à 80 cm au-dessus du niveau du gué.
En fait, ces autorisations-là qui ont été données il y a quelques années en arrière, un certain nombre d'années en arrière, étaient tout à fait légales, si tu veux. On mettait des ascenseurs à poissons. Perso, j'ai jamais été convaincu qu'un poisson pouvait prendre un ascenseur, appuyer sur un bouton, aller au troisième. Bref, non, je rigole là. Mais ils étaient tout à fait dans la légalité. Or, on se rend compte qu'actuellement, non seulement il fonctionne pas, on voit aucun poisson remonter, mais en plus, les poissons, il faudrait qu'ils sautent d'un mètre pour arriver à monter dans l'ascenseur.
Ce qui est au-dessus de leur
capacité. Ils sont pas prêts de bouton.
Capacité.
Alors, moi, à force, tout ça, ça a été possible grâce à Thierry Botta et à Jean-Pierre Botta, qui est son papa, qui m'ont donné l'accès totalement, pour que j'aille sur leur échelle, enfin, que je puisse tout vérifier. Parce que Thierry Botta et Jean-Pierre Botta, eux, ça les embête quelque part. Eux, ils veulent pouvoir faire de l'électricité, mais que la continuité donc, écologique soit respectée. Donc, il y a des points qui ont été... il y a tellement de choses à dire. Donc, en fait, à force, ils ont une réunion avec la famille Botta, donc Thierry Botta et Jean-Pierre Botta, l'OFB, donc l'Office français de la biodiversité, la direction départementale du territoire et le bureau Terreo. Donc, ils ont prévu de refaire une échelle pour que les poissons, une échelle sous la forme de bassins successifs. Donc ces bassins seront totalement, le départ sera totalement immergé, pour que les poissons puissent prendre ce bassin et aller jusqu'à l'ascenseur. Alors ça, c'est quand même très, très, c'est important.
Ouais, l'idéal aurait été un contournement, si tu veux, par ce qui se fait ailleurs, à savoir des parties en quinconce, de façon à ce que la truite puisse remonter comme une espèce d'escalier en évitant le courant fort.
À sa hauteur, oui.
Mais c'est impossible par la conception elle-même du terrain. On voit bien que c'est encaissé entre deux falaises et qu'il est impossible de faire contourner ça par un système quelconque autre qu'un ascenseur. À moins qu'ils vendent
le
barrage.
Il y a des ascenseurs qui marchent très bien, celui de Bourg-Saint-Maurice.
Oui, mais pas conçu de la même façon.
Il y a 5 ou 600 truites. Par exemple, moi qui connais un petit peu le barrage de Poutès sur l'Allier, bon, les saumons ont de la peine à prendre l'ascenseur, mais ils montent entre 500 et 700 truites par cet ascenseur.
Ils ont un système de comptage.
12 mètres d'eau. Donc voilà, quand les choses sont bien faites. Alors, je voudrais en revenir aussi sur autre chose pour le barrage Botta. Qu'est-ce que je voulais dire?
On est parti en tout cas sur la réunion. Alors, est-ce qu'elle a eu lieu?
Il y a eu ces décisions. Donc, j'ai pu avoir le compte-rendu de ces décisions. Voilà ce qui a été décidé.
D'accord.
Ça, c'est quand même très important. Après, voilà, ça y est, je reviens, je retrouve le fil de ma discussion. On s'était aperçu aussi que parce qu'en fait, les sédiments, il n'y a pas de transit de sédiments. Sédiments, c'est tout ce qui est transporté par la crue et c'est bloqué par le barrage. Le barrage, il fait 7-8 mètres de haut. Donc, tous les ans, l'appel mécanique montait sur le barrage, prenait les sédiments et les relarguait directement en dessous. Ce qui fait qu'au pied du barrage, tout était bouché. Donc après, on s'est dit, j'ai dit, ça ne peut pas continuer comme ça. Après, on a trouvé un débit qui est à 6 mètres cubes seconde, qui fait que quand tu prends les sédiments à l'amont et tu les déverses à l'aval, ils sont tout de suite, avec la vanne de fond verte, ils sont tout de suite balayés. Donc là, ils ont fait ce transfert de sédiments avec ce débit, et tout s'est bien passé. On n'a aucun trou, l'aval du barrage n'était pas bouché. Et ça, c'est des petits plus qu'on a acquis grâce à notre présence, Marcel, c'est les truites
qui sont au pied du barrage, ce qu'elles deviennent quand ils balancent la première pelletée. Parce que il n'y a pas moyen de faire autrement. De toute façon,
voilà, il n'y a pas moyen.
Leur barrage est enlisé en amont. Il faut qu'ils se débarrassent des graviers sur
la sédiments.
Des sédiments. Mais au pied du barrage, il y a des gros trous et ça facilite. Et il fait très froid là, à cet endroit-là. Donc les
ça
gros
doit être
poissons,
bien frais, oui.
Ils sont bien là. Donc ouais. Quand ils prennent une pelle sur la tronche
en fait,
de gravier, ça ne doit pas leur faire plaisir. Maintenant, on espère qu'ils se sauvent un peu à l'aval.
En fait, avec ce débit à entre 6 et 7 mètres cubes, c'est tout de suite balayé. Avant, les trous qui étaient tout de suite à l'aval du barrage, sur 20 mètres, étaient totalement comblés. Là, on est retourné, j'avais dit à Gilles, parce qu'on était en période de confinement, et si tu peux, moi je ne peux pas me déplacer. Et il n'y a rien qui a été comblé. Donc même si les sédiments, les truites, ils ne vont pas attendre que les cailloux leur tombent sur la tête pour se planquer. Et un poisson qui est, qui est pas blessé, mais qui est stressé, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre au plus profond de sa cache. Donc là, s'il rentre au plus profond de sa cache... Eh ben, le courant a balayé les sédiments. D'ailleurs, tout était propre. On est retourné quelques jours après. Tout était nickel. Voilà.
Nickel, il n'y a plus de truite.
Non, je rigole. Si, on a vu des truites. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en étant présent au bord de l'eau, en suivant les travaux, on arrive à avoir des... Ce n'est pas en criant. Hein. De toute façon, on peut crier tout ce qu'on veut. Ça s'envole, c'est comme le vent. Avec l'administration, il faut monter des dossiers. Et puis, pas leur répéter une fois, ni 10 fois. Mais là, j'ai fait au moins... 50 dossiers de pauvres points. Alors, je pense qu'ils ont dû en avoir marre de les recevoir. Ils se sont dit, là, il faut qu'on fasse quelque chose. Voilà. Il n'y a que comme ça qu'on avance.
Bon, ben heureusement que Marcel ne recule pas devant la difficulté, effectivement. Moi, j'aurais baissé les bras. Bravo. On va se faire à nouveau une petite pause musicale avant de continuer sur les points à traiter aujourd'hui avec... Alors, c'est Michael Jackson ou Michael Jackson, Michael. Working... Ben, normalement, oui, mais c'est pas écrit comme ça. Working Day and Night.
Michael.
Then you must be seen.
Et bonjour à vous tous qui nous rejoignez sur les ondes de Radio Couleur Chartreuse dans notre émission mensuelle des rivières et des hommes, l'émission de l'APPMA des pêcheurs du Haut-Guillet, avec comme toujours Gilles Rondeau et Marcel Guitta. Alors, nous en venons à un point un petit peu sensible avec la mise en place, en tout cas l'annonce de la mise en place de la nouvelle charte du PNR, qui, selon des articles récents, annoncerait des projets d'installation de microcentrales. Et on n'est pas forcément d'accord au niveau de la PPMA. Alors, est-ce qu'on peut rappeler où est le problème avec les microcentrales, Gilles ?
Disons que si on a réussi à faire passer le Guémort Rivière Sauvage, c'était justement pour se protéger des microcentrales. Une microcentrale, c'est en règle générale un barrage électrique pour produire de l'électricité qui est construit par un particulier qui revend le courant à EDF.
Un petit peu comme les panneaux solaires.
C'est ce que fait le barrage Botta, d'ailleurs. Hein, ouais. Donc le projet actuel est d'installer le plus de microcentrales possible sur les cours d'eau français qui ont un débit et une pente suffisante pour permettre une puissance suffisante de l'eau. Or, à part les Alpes, les Pyrénées,
les Hautes-Alpes, peut-être
Oui, les Hautes-Alpes, les régions concernées, on est en plein dedans, quoi. Ce qui fait qu'en ce moment, les pêcheurs, et pas seulement, sont très inquiets par la loi climat concernant l'hydroélectricité et la protection des milieux aquatiques français. Il y a un collectif qui s'est monté sur les réseaux sociaux. Les pêcheurs commencent à monter dans les tours parce que on voit mal, nous qui sommes pour la continuité de l'eau, à savoir qu'on détruit des seuils pour faciliter l'écoulement, voire mettre des barrages tout le long de la rivière. C'est exactement à l'envers de ce qu'on prétend. Ce qui fait que on est très très inquiet et il n'y a pas trop d'opposition à ces lois qui sont prises pour favoriser l'installation de ces microcentrales. La plupart des gens, moi, que je vois au bord de l'eau, avec qui je discute, des non-pêcheurs, à qui ils me disent « mais c'est bien une microcentrale, ça... » Mais écoutez, c'est bien pour la personne qui l'installe, oui, parce qu'il revend le courant. Maintenant, installer une microcentrale pour une commune ou pour un intérêt global... On pourrait comprendre, mais pour un particulier, je vois vraiment pas l'intérêt. Il y en a sûrement un pour EDF, parce que, ils produisent du courant, leur truc, c'est ça. Maintenant, on voit qu'il y a une lutte contre les éoliennes, il y a une lutte contre tout un tas de choses, et la microcentrale semble être le débouché naturel de gens qui voilà.
Sauf que ça a un impact sur
Ça a un impact évident, évident
qu'on peut le rappeler
sur la rivière, c'est impressionnant. Et la plupart du temps, Le contrat qui est signé avec le particulier qui veut faire sa microcentrale respecte tout à fait les normes qui sont fixées à ces gens-là. À savoir que, ils ont un certain nombre de règles à respecter et surtout un débit réservé. Le débit réservé, c'est la quantité d'eau qu'ils doivent restituer à la rivière. Et ils produisent du courant, mais ils restituent une quantité d'eau. Or, quand on est en période d'étiage, à savoir de sécheresse de plus en plus, il y a beaucoup de... Je ne dis pas que tous font ça, mais la plupart continuent à produire de l'électricité et mettent la rivière à sec.
Donc, évidemment, alors qu'elle n'en a pas besoin.
Elle n'en a vraiment pas besoin. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire là ? Je pourrais vous lire un... pour résumer ce que je dis, je vais vous lire quelque chose que j'ai trouvé sur les réseaux sociaux où les pêcheurs discutent beaucoup, des fois bien, des fois mal, mais bon... Voilà le texte en question. Vous le savez, l'actualité est chaude sur le front de l'hydroélectricité et les coups de boutoir s'enchaînent sur nos écosystèmes. Le 15 février dernier, suppression par le Conseil d'État, l'article 1er du décret du 3 août 2019 relative à la notion d'obstacle à la continuité écologique des cours d'eau. Le 22 mars, dépôt de l'amendement 171 au projet de la loi climat pour défendre l'hydroélectricité en général et les moulins à eau en particulier. Je pense que ça, c'est un faux problème, le moulin à eau. Hein. Le 31 mars, adoption de la proposition de loi du sénateur LR des Vosges, Daniel Grémillet, tendant à inscrire l'hydroélectricité au cœur de la transition énergétique et de la relance économique. Il y a donc de quoi s'inquiéter. Nous, on essaye d'éviter les microcentrales sur nos rivières, et là, maintenant, on nous les... On veut nous en faire
une règle générale.
Oui. La liste est longue. Hein. Donc, en tant qu'amoureux des milieux, je continue le texte, en tant qu'amoureux des milieux aquatiques et naturalistes, dans l'âme, nous nous mobilisons face à cette déferlante et tentons d'initier un débat contradictoire, pour l'instant inexistant, de façon non dogmatique, nuancée et technique. Pour ce faire, nous avons établi un plan qui s'inspire directement des méthodes utilisées par les lobbyistes de la petite hydroélectricité et de la préservation des chaussées de moulins. Il consiste à alerter directement nos députés et sénateurs sur l'urgente nécessité d'étayer leur position politique par une documentation technique idoine. La stratégie que nous souhaitons mettre en œuvre est née d'un constat d'échec. Malgré une réglementation jusque-là favorable aux milieux aquatiques, une myriade d'acteurs très engagés dans des politiques de gestion de ces milieux, services de l'État, EPTB, syndicats de bassins versants, départements, communautés de communes, fédérations de pêche, parcs naturels régionaux, conservatoires des espaces naturels, associations environnementalistes, etc., nous pesons trop peu dans les décisions politiques. Cet état de fait démontre l'impérative nécessité de trouver d'autres voies pour influer sur le débat public et surtout sur les décisions politiques. Aussi, revenir à certains fondamentaux oubliés de la vie démocratique de notre pays, à savoir interpeller nos élus et leur faire connaître nos opinions et ce que l'on attend de leurs décisions, semble être une piste intéressante à suivre. L'espoir est permis. Les premiers votes de l'amendement 171 ont été très serrés. Tout se joue à une dizaine de voix près et la seconde lecture a débuté hier lundi 14 juin 2021. Toutes les initiatives sont bonnes à prendre et peuvent encore porter leurs fruits. L'enjeu qui nous réunit aujourd'hui est la seconde lecture du texte de loi qui s'achèvera le 29 juin prochain. Dans tous les cas, des éléments du texte de loi peuvent être rediscutés après cette échéance, notamment en commission mixte paritaire. Pour cela, nous comptons sur une mobilisation massive et immédiate de tous les acteurs des milieux aquatiques. Plus nous serons nombreux à interpeller les pouvoirs publics, plus nos chances de réussite seront importantes. Bon, je vais arrêter là, le texte continue. Vous pouvez le trouver sur Facebook à Collectif Hydro Manifeste. Voilà.
Alors, ce qui nous inquiète pour notre région, enfin notre région de Chartreuse, le parc de Chartreuse a présenté et validé sa nouvelle charte qui sera valable de 2022 à 2037. Donc, c'est quand même pas rien.
Une grosse période.
Et à la clé, quelques changements. Et donc, Sophie Madelrieux, qui est, je crois, la nouvelle présidente, enfin, qui est la responsable du conseil scientifique, dans les mois prochains, indique Sophie Madelrieux, nous allons suivre plusieurs projets comme l'aménagement du col de Porte ou l'installation de micro-centrales sur les rivières du territoire. Et c'est ça qui nous inquiète. Parce qu'en fait, l'installation de ces micro-centrales a des répercussions sur la biodiversité. Je veux dire, partout où il y a des micro-centrales, il y a à peu près en France 2500 micro-centrales qui sont installées et qui représentent 1,5% de l'électricité. Donc, de l'électricité hydraulique. Hein, parce que l'électricité hydraulique, je crois que ça se situe entre 11 et 12% de l'ensemble de l'électricité qui est produite sur notre territoire. D'accord. L'énergie nucléaire, c'est un peu plus de 70%. Donc, je pense que ces micros, donc c'est 1,5% qui représente la part des micro-centrales dans l'énergie hydraulique. On ferait mieux de faire des économies que d'être toujours... En fait, on parle d'économie, mais on crée des installations pour toujours consommer davantage. Tant qu'on donnera aux gens, autant qu'on donnera à la planète de pouvoir consommer davantage, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle consommera. Parce que si on fait le plan, si on fait le bilan à la seconde même où on parle, on n'a jamais autant consommé que maintenant. Donc, il faut faire un choix. Et alors, il y a les mégawatts, mais il y a le no-mégawatts aussi qui est à prendre en compte. Alors, faisons des économies pour éviter de faire n'importe quoi, pour éviter d'abord de défigurer notre patrimoine, parce que ça en fait partie. Et je trouve que, voilà, tout ça fait que nous, on est quand même assez réticents à cette fameuse charte dans le cadre de ce qu'ils appellent quelques changements.
Voilà, Marcel dit, éteignez la lumière, prenez des douches, prenez pas de bain,
oui.
Et ainsi de suite. Mais ça commence par là, oui, c'est évident.
Quand on voit le réseau d'eau potable, je parle pas... Mais de toutes les grandes villes, il y a entre 20 à 30% qui se perd. Et ouais, quand je parle pas du gaspillage, quand on parle au niveau de la consommation, il y a 30% qui sont gaspillés. Ces 30% suffiraient à nourrir le reste de la planète.
Donc on revient sur la notion d'économie.
D'économie.
Il n'y a pas que ça. Hein. Il y a des fuites dans les canalisations, il y a des fuites souterraines, il y a une déperdition de l'eau impressionnante. C'est-à-dire que les travaux sont énormes pour remettre en place des réseaux
sains
qui fuient partout, c'est une passoire. Donc on gaspille, mais pas que chez nous. On gaspille collectivement.
De façon générale. Alors, ouais. Concernant ce point particulier sur le projet annoncé du parc naturel de Chartreuse, que comptez-vous faire ? Pensez-vous...
On aimerait bien en discuter avec les responsables.
Avec le président, Dominique Escarron.
Oui, ou Sophie Madelrieu. Parce qu'on aimerait bien, parce que ça, c'est un article du Dauphiné. Donc, le parc de Chartreuse avait dit sa nouvelle charte. On aimerait bien pouvoir aussi en discuter avec eux pour savoir ce qu'ils comptent faire. Oui. Parce que, on sait bien que dans un article, il y a beaucoup de choses qui sont plus ou moins vraies ou des fois totalement fausses
plus
par rapport
moins,
à ce qui
plus
s'est
ou
dit.
Moins fouillé,
voilà, exactement. Voilà. Donc, ce qui serait intéressant, c'est qu'on puisse en discuter. Voilà, tout
donc
simplement.
Donc, ça fait certainement partie des démarches que vous allez initier.
On va essayer, oui, tout à fait. Oui.
D'accord. Oui. OK. Alors, toujours un point un petit peu grattant, Marcel, il y a une pêche de sauvegarde qui s'est faite du côté du pont Jean-Liou, c'est aujourd'hui ?
Alors, oui, de toute façon, il y a des travaux qui sont...
Sachant qu'on a des travaux en cours, oui. Est-ce qu'on peut rappeler en quoi consistent les travaux ?
Alors, les travaux...
Et pourquoi une pêche de sauvegarde et le constat...
On fait une pêche de sauvegarde avant travaux.
Voilà.
On intervient dans la rivière, que ce soit pour refaire, refaire des seuils, arasement de, etc. Si on a des pêches de sauvegarde, on les fait avant travaux. Alors donc ce matin.
Alors le but des pêches de sauvegarde, c'est de préserver.
De sauvegarder les poissons qui sont.
Donc on les prélève, on les met ailleurs.
Et on les met
le
ailleurs.
Temps des travaux.
Voilà.
Et on les remet une fois que les travaux.
Non. On les met ailleurs et puis après on laisse la.
Ils
on
vivent
laisse
leur
les poissons,
vie de poisson.
Exactement.
D'accord.
Alors actuellement, on en a déjà parlé, donc il y a des travaux d'arasement partiel du seuil du Moulin Neuf. Le seuil, c'est le seuil de l'ancienne papeterie à Entre-deux-Guiers. Donc on avait, moi je fais tout avec Gilles ou avec Eric, on va toujours au rendez-vous de chantier, on suit. Donc il y a une quinzaine de jours, donc j'entendais une discussion entre l'entreprise et puis le bureau d'études, où il était question de commencer la démolition du seuil. Et alors, je dis, mais attendez, il n'y a pas de pêche de sauvegarde qui est prévue là ? Ah non. Je dis, de toute façon, tant qu'il n'y a pas de pêche de sauvegarde, vous ne touchez pas au seuil. Donc après, j'en ai référé à l'OFB, qui est intervenu avec la direction départementale du territoire pour qu'il y ait une pêche de sauvegarde. Donc, il y avait une pêche de sauvegarde ce matin, avant la démolition du seuil. Et bien, rien que sous ce seuil, on a récupéré 40 truites. Qui ont été protégés. Alors, 40 truites, dont une de 47 cm. Tous les poissons, ils aient minimum entre 25 et 35 cm.
Oui.
En fait, tu imagines si les travaux commencent et qu'ils rentrent une pelle dans l'eau,
oui,
ce qui peut se passer avec
ils
ces poissons-là.
Ils peuvent prélever des poissons, bien
sûr. Ils vont écraser la
totalité
écraser, du
enlever,
truc.
Mettre dans la terre, enterrer dans la terre, oui, bien sûr.
C'est un carnage. Donc, chaque fois qu'il y a des travaux dans une rivière, ils doivent d'abord faire une pêche électrique de sauvegarde. Il y a des pêches électriques qui se font pour un comptage, si tu veux, qui sont faites par la Fédé, par différents organismes. Et c'est des pêches de comptage pour voir quelle quantité de poissons on a, quelle tranche d'âge on a dans la rivière. Ça, c'est pas une pêche de comptage, c'est une pêche de sauvegarde. C'est-à-dire qu'on enlève les poissons, on les remet ailleurs là où ils craignent rien, et après ils peuvent commencer les travaux. On va pas tous les sauver, ça c'est sûr. Ils réagissent pas tous.
Oui.
C'est une espèce de courant électrique, sans être un courant électrique, ça les endort. Et 2-3 minutes après, ils repartent en pleine forme. C'est, ça a rien de sauvage. On les massacre pas.
Et rien que sous ce seuil, on a prélevé 40 truites, mais on n'a pas juste à l'endroit du seuil. Alors, il y a d'autres travaux qui étaient prévus en amont concernant le renforcement du sol du Suifier, de la bordure, on va appeler ça, parce qu'en fait, une fois que le seuil va être arasé d'un mètre 70, qu'est-ce qui va se passer ? Tous les sédiments qui sont en amont vont glisser. Donc, le lit va se creuser. Donc, il est prévu de mettre des blocs de rochers au niveau du seuil du Suifier, en fait, en bordure du Suifier. Et là, il était prévu normalement une pêche de sauvegarde, et après, l'aménagement pour pouvoir mettre ces blocs, en fait, ils ont séparé le lit en deux, ils ont condamné la partie, enfin, condamné, oui, le courant ne passe plus en rive droite, donc la partie qui comprend le seuil du Suifier, ça, c'était, il y a une digue qui est faite, qui fait 150 mètres de long, et normalement, on aurait dû faire une pêche de sauvegarde avant ces travaux-là. Et malheureusement, ils ont aménagé, ils ont fait cette digue ils ont fait cette digue, ouais. Et il n'y a pas eu de pêche de sauvegarde. Donc ce matin, après avoir fait la pêche de sauvegarde au niveau du seuil, donc du Moulin Neuf, ils ont fait la pêche de sauvegarde sur à peu près 150 mètres en amont, 5 truites. Et on voit bien que là où l'appel mécanique a passé. Donc, alors, ce qu'on souhaite, parce que bon, il y a plusieurs théories, ce qu'on souhaite, c'est que les truites se soient sauvées. Voilà, c'est ce qu'on souhaite.
C'est pas possible. Donc, de toute façon, ils ont coupé la rivière en deux. Il n'y a qu'une demi-rivière.
Ils ont fait un chenal.
Avec un chenal, d'un côté, en amont de ce seuil du Moulin Neuf. Donc la pêche électrique a été faite en aval, mais pas en amont. Et ils ont asséché la moitié de la rivière en mettant une espèce de digue, ce qui affole les riverains, ce qui affole tout le monde. Et pas de pêche de sauvegarde de façon à remettre les poissons quelque part, quoi, en amont ou en aval de ces travaux.
La logique n'a pas été respectée, même s'il n'y avait pas eu de poissons.
La logique, la concertation...
Il y a quelque chose qui a foiré, en parlant... Même s'il n'y avait pas eu de poissons... Il y a des respects.
Mais du coup, pour comprendre la chaîne des responsabilités, sans accuser personne, mais c'est la mairie qui commande ce genre de travaux.
La mairie, elle respecte.
Ça vient du SIAGA,
Le SIAGA, le bureau d'études Merlin, ils respectent. Mais l'entreprise, certaines entreprises prennent toujours certaines libertés.
D'accord. Ils ont des délais, des dates imparties. Donc, on peut penser qu'ils ont attaqué les travaux parce que, il fallait qu'ils attaquent. Il y a eu l'histoire de Covid. Je suis pas en train de défendre ni la veuve ni
l'autre. Non, mais tu donnes ton point de vue. Ton point de vue est toujours intéressant.
S'ils ont fait ça, c'est qu'ils avaient des impératifs. Maintenant, il faut que ces gens-là prennent l'habitude de nous consulter avant de faire quoi que ce soit. Et il faut qu'on compte dans le milieu. Un pêcheur, ça reste encore un pauvre connard qui dit rien, qui bouge pas. Et maintenant, je crois qu'il faut qu'on soit consulté. Ça a évolué, la pêche. On s'en occupe. On s'occupe de la rivière. S'ils nous foutent en l'air tout le boulot qu'on a fait, on devient méchant.
Oui, normal.
Donc, il faut qu'on s'accorde, qu'ils respectent les choses et qu'ils nous préviennent chaque fois. Et c'est tout ce qu'on demande. C'est pas autre chose. Ils peuvent faire les travaux et qu'on cale les dates de pêche, de sauvegarde avant les travaux. C'est relativement simple à faire.
Ce que je peux rajouter, c'est que la maîtrise d'œuvre n'était pas au courant de ce qui s'est passé, parce que c'était mercredi, donc au rendez-vous de chantier. Je sais pas, j'ai eu la bonne idée d'aller au pont Jean-Liou puis faire le tour, et c'est là où j'ai vu ça, j'ai dit mais c'est pas possible. Je suis tombé donc avec celui qui a la maîtrise d'œuvre, donc Étienne Kamel. Il me dit mais écoute Marcel, j'étais pas au courant non plus, je découvre comme toi et c'est pas normal, voilà. Donc après ça va se régler avec l'entreprise et la maîtrise d'œuvre, voilà. Mais ce que je veux dire par là, notre rivière, il faut la suivre. Quand il y a des travaux, il faut que les bénévoles soient là. C'est ce que on avait une réunion avec la Gaulduyer, donc parce que c'est plutôt leur partie, ça, de la PPMA. J'avais dit, soyez présents, parce que de toute façon, une entreprise, elle, ce qu'elle veut, c'est que ça avance. Et quand on travaille avec toutes ces contraintes qui sont inhérentes au milieu aquatique... Eh bien, des fois, si vous n'êtes pas là...
Ils passent certaines étapes. Ils ne prennent pas conscience de...
Exactement. Il manque cette responsabilité que nous, on peut avoir, parce que par la connaissance du milieu... Voilà.
Bon. Alors là, du coup, sur ce point particulier, plus rien à faire. Il n'y a plus qu'à pleurer.
Mais on garde le moral. Là, je sais que les travaux se continuent. Je vais, dès qu'on aura fini l'émission radio, retourner sur place, voir ce qui se passe. Dans la semaine, je vais passer pour voir comment se passe voilà.
C'est une vraie vie de ministre, Marcel.
Donc, ce barrage, là, qui était infranchissable pour les poissons, deviendra franchissable grâce à un canal de contournement qui rejoindra la rivière au-dessus du seuil qui restera. À savoir qu'ils vont le faire tomber d'un tiers, à peu près. Et les truites ne pourront toujours pas remonter, mais elles ont un canal de dérivation qui contournera l'obstacle pour remonter au-dessus. D'accord. Donc, la continuité, on en revient toujours au même truc, on continue. Il ne manquerait plus qu'ils nous mettent une microcentrale là.
Je vais compléter. Alors, ce qui est prévu, donc juste à l'aval de la prise du canal, il y a un système de comptage des poissons. Et à l'entrée du canal, il y a un système de comptage. Et à la sortie, il y a un autre système de comptage pour voir... Donc en fait, c'est une échelle à poissons, mais grand modèle. Ça doit faire à peu près 3 mètres de large, avec des blocs pour que les poissons puissent se dissimuler, monter. D'ailleurs, d'un point de vue touristique, ce sera sympa à voir au moment où les truites vont remonter pour frayer.
Ça sera
en plus, ils vont végétalisée. C'est, voilà.
Ça peut être sympa aussi pour une émission spéciale. Hein.
Oui.
On prend le Tascam, on va en bord de rivière et on fait l'émission en direct au bord de la rivière.
Non, puis les élus, que ce soit Pierre Baffert, que ce soit son premier adjoint, que ce soit le maire de Méribel-les-Échelles, ils sont présents aux réunions. Ça fait plaisir de pouvoir discuter avec eux de ces problèmes. Parce que j'en profite toujours pour parler de tout ce qui va bien et de tout ce qui ne va pas non plus.
C'est un Auvergnat, il lâche rien. Hein. C'est infernal. Et quand il a une idée derrière la tête, il va au bout.
Je vois ça. Mais bon, en même temps, il est impliqué et c'est très bien.
C'est pour ça qu'il ne va pas à la pêche. Comme ça, je peux prendre tous les poissons, tranquille. Et les remettre à l'eau, évidemment.
Il reviendra quand il aura un emploi du temps un peu moins
ministériel. Ce qui s'est passé, c'est que quand on a fait l'inventaire des petits ruisseaux, que le maire d'Arrée, le Chauroland, tout ça, je suis tombé.
Oui,
le courant mars.
Dit, oui.
Et je suis tombé vraiment dans 20 cm d'eau.
Sur le cul.
Et non, je suis tombé face à la rivière avec 20 cm d'eau. Terre. Et sur le moment, j'ai cru que j'allais pas pouvoir me relever.
Oui.
Je me suis relevé. Il y avait donc Jean-Pierre et Eric Chollet qui étaient derrière moi, qui sur le coup ont pas rigolé. Puis après.
D'ailleurs, il s'est toujours
mais en
pas
fait,
relevé.
Ça fait 15 jours que j'ai repris le travail du jardin, du potager, etc.
D'accord.
Donc bon, j'avais 2 mois et demi de retard. Donc ça y est, ça va mieux.
Monsieur un potager.
Mais j'ai toujours mal à la cheville, j'ai toujours mal aux genoux et j'ai toujours mal aux fessiers.
Bon.
Mais va bien.
On en terminera par là sur l'investissement du président de la PPMA.
Il a dit mal aux fessiers, t'as vu.
Des pêcheurs du Hoguier, on va se séparer avec Sinsémilia Respire. Merci messieurs pour cette nouvelle émission et à la prochaine.
Merci à nos auditeurs, merci Sophie, merci à Lucas qui est toujours le technicien à la pointe, et merci Gilles.
À la pointe
et merci
du progrès, avec des musiques un peu plus modernes. Merci Lucas, merci Sophie.
À très
bientôt. Merci de nous écouter, c'est long.
Ouais.
Ces murs, toujours plus haut, toujours plus large, toujours plus sûr. Pièce par pièce, on colmate, on peaufine nos armures. Toujours plus sombre, toujours plus froide, toujours plus dur. Se protéger de l'autre et de ses blessures. Se protéger même des nôtres, cela semble plus sûr. Laisser nos peurs construire leur immense tour d'ivoire. Faire le choix de ne pas voir ou de repousser à plus tard. Se mentir à soi-même et finir par y croire. Détourner le regard du reflet du miroir. Se raconter des histoires et finir par y croire. Combien se réveilleront quand il sera trop tard. Mordent le bras quand tu leur tends la main. Si peu habitués à ce qu'on leur veuille du bien. Combien baissent la tête pour ne pas regarder. Comme si le monde autour n'était fait que de dangers.